France Culture.
Ce matin, on parle de Winnicott.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
1960, dans un article d'une trentaine de pages, le pédiatre devenu psychanalyste Donald Winnicott évoque un concept qui n'est pas nouveau, mais auquel il va donner une véritable portée dans sa discipline, le self. Attention, pas le moi, pas le sujet, pas le surmoi ou le ça comme chez Freud, mais le self, ce qui fait que l'on est soi et personne d'autre. À ceci près, nous dit Winnicott, que le self peut être vrai et parfois faux. Alors, quel est ce faux self que l'on se fabrique et comment retrouver son vrai self ? Aujourd'hui, troisième épisode de notre série, Donald Winnicott, le psy suffisamment bon.
Avec certains de vos enfants, vous aurez de la chance. Parce que votre assistance permet rapidement à votre enfant d'utiliser des symboles, de jouer, de rêver, d'être créatif de façon satisfaisante. Mais même dans ce cas, le chemin pour y arriver sera semé d'embûches. Et si vous faites des erreurs, vous penserez qu'elles sont catastrophiques à cause de vos objectifs élevés. Et vos enfants essaieront de vous rendre responsable de ces échecs, même si vous ne l'êtes pas, en fait. Vos enfants disent simplement « J'ai jamais demandé à naître ». Votre récompense viendra avec la richesse qui apparaîtra progressivement dans le potentiel personnel de tel ou tel garçon ou fille. Et si vous réussissez, vous serez jaloux de vos enfants qui auront de meilleures opportunités de réussir leur développement personnel que vous n'en avez eu vous-même. Vous vous sentirez récompensé si un jour votre fille vous demande de garder ses enfants, indiquant ainsi qu'elle pense que vous pourriez le faire d'une façon satisfaisante. Mais les récompenses viennent indirectement. Et bien sûr, vous ne serez pas remercié.
Bonjour Laurent Joseph.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste. Vous êtes l'autrice de plusieurs essais. Et le dernier, je le cite, « Nos silences, apprendre à les écouter » est paru aux éditions Autrement. Quelle place occupe Donald Winnicott dans votre pratique de psychologue et de psychanalyste ?
Une place importante. Ce que Winnicott nous apprend et qu'on va certainement parcourir ensemble, c'est de savoir sauter dans la clinique. En fait, c'est de pas avoir peur, de pas se sentir ligoté par la théorie, mais d'observer, de regarder et d'avoir confiance en notre intuition.
Donc quand vous dites sauter dans la clinique, c'est-à-dire que vous conseillez à tous les auditeurs et auditrices d'aller vite chez un psy ou de lire ses textes dans la clinique, de plonger dans la clinique de Winnicott ?
Alors, bien sûr, de plonger dans la clinique de Winnicott, dans son écriture, dont on va sûrement parler. Mais moi, ce qui m'apprend comme clinicienne, c'est de développer mon sens de l'observation, c'est-à-dire de prêter grande attention, bien sûr, au langage, aux mots qui sont utilisés, mais aussi de faire très attention, notamment dans les entretiens des parents et des enfants ou les entretiens mère-enfant que je peux conduire, de faire très attention aux postures, aux attentes, au temps de latence, au corps. Ce qui intéresse Winnicott, c'est le lien entre la psyché et le soma, c'est-à-dire le lien entre le corps et l'esprit. Et vous l'avez rappelé, Winnicott, c'est un pédiatre. Pendant 40 ans, il a fait des consultations mère-bébé et donc il nous apprend à ouvrir chaque consultation par ce lien d'observation au corps et aux mots, mais les deux ensemble.
Alors, on a entendu dans cet archive de 1968, Winnicott qui s'adresse à une assemblée pour évoquer l'éducation des adolescents. Et puis surtout, cette idée, il fait rire beaucoup de monde. Voilà, on a l'impression que c'est quelqu'un de sympathique, qui parle d'un sujet quand même sérieux, qui l'évoque, des sujets sérieux. Et on va en évoquer des sujets même graves, de psychose, de suicide, de schizophrénie, mais avec beaucoup de tact et d'humour. Et il a cette lucidité, on l'entend, sur les enfants qui ne remercieront jamais leurs parents, même quand les parents ont apporté le meilleur. Et il a cette phrase de permettre la richesse d'un potentiel personnel. Est-ce que ça, le potentiel personnel qu'il évoque, il ne parle pas de self, c'est ce qui se rapproche le plus justement de ce concept de self ?
Oui, absolument. Cette richesse du potentiel, cette signature aussi personnelle que des empreintes digitales, c'est une des images qui m'est venue en réfléchissant au self, c'est-à-dire celle de la singularité absolue. C'est exactement cette définition du self qu'on va travailler. Et par rapport à ce que vous étiez en train de dire au début, je pense que très important de savoir que Winnicott, ce qu'il aimait, c'était s'adresser aux gens qui s'occupaient directement des enfants. Winnicott, il a évité d'une certaine manière de s'adresser trop à des sociétés de psychanalystes. Lui, ce qui va lui plaire, c'est d'aller voir des éducateurs. Pendant la guerre, il a eu, comme vous le savez sûrement, des émissions radiophoniques. Lui aussi, il aimait la radio. Et il aimait s'adresser aux parents, ceux qui étaient séparés de leurs enfants, qu'on avait éloignés de Londres, ou s'adresser aux familles d'accueil qui se retrouvaient avec ses enfants pendant ces années terribles de la guerre. Et donc, il aimait aller au contact de la parentalité des parents et de finalement de créer ce holding avec, c'est-à-dire cette prise en charge, cette enveloppe de la posture parentale. Et c'est vrai que quand on est parent, bah, on doit être aguerri aussi à l'ingratitude, aux volte-face, à la rébellion aussi. On sait aussi qu'il a étudié la tendance antisociale, c'est-à-dire aussi la destructivité des adolescents, qu'il a travaillé aussi la destructivité des bébés. C'est-à-dire que Winnicott, il est à 365 le bébé, l'enfant, l'adolescent. Et il est pas là pour nous bercer d'illusions. Il travaille aussi les questions, par exemple, de la haine de la mère vis-à-vis de son bébé, de la haine du psy par rapport à son patient, dans cet article de la haine dans le contre-transfert. Tout ça pour dire qu'il nous fait rire, parce que aussi, il vient chercher dans la réalité de notre expérience parentale.
Mais il n'est pas dans le jugement pour autant. Ça, c'est important de le dire, parce que dans les textes qu'on va écouter, qui peuvent être inquiétants, quand on lit des textes sur le self, c'est-à-dire on va tenter de définir ce que c'est que le self, mais qui pourrait définir ce que l'on est, il y a quelque chose d'inquiétant à part parler d'un faux self, d'un vrai self auquel on n'aurait jamais accès. Moi, j'étais proche de l'angoisse à certains moments de me dire, mais suis-je vraiment dans un vrai self ? À quel moment on est sûr de ça ? Est-ce qu'on n'est pas tout le temps avec un masque social ? Est-ce que c'est ça le faux self ? Voilà, ça engage des questions qui sont assez cruciales.
Oui, tout à fait. Là où c'est moins angoissant pour la clinicienne que je suis, c'est que Winnicott, là, il nous guide, il nous rassure au contraire, il nous donne des outils d'observation pour penser les choses. Alors, il n'était jamais dans le jugement par rapport aux parents, parce que quand on travaille avec des parents et des enfants, on ne peut pas être dans le jugement. Sinon, c'est impossible de travailler comme ça. Je me permettrais de dire que les seuls moments où il était dans le jugement, c'était par rapport peut-être à certains collègues, dont il allait peut-être mépriser le dogmatisme. Winnicott détestait le dogmatisme, la suffisance, la rigidité. Tout ça, c'est des choses, et on le verra, je pense, au fur et à mesure de l'émission. Il peut parfois dire, mais certains psychanalystes ont travaillé en vain. Ils vont pas avoir la bonne piste, ils vont pas chercher au bon endroit, ils vont avoir peur de casser trop de choses, ou de voir justement le faux self et le vrai self, ils vont avoir peur de s'y coller.
Quelle place occupe le self dans l'œuvre de Winnicott ?
Alors, une place centrale, une place de boussole, je dirais. Il a commencé à le formaliser dans les années 50, avec, en 1960, un article très important, modification du moi dans le vrai et le faux self.
Modification ou distorsion ?
Oui, modification, distorsion. En fait, cet article, en 1960, c'est un peu une cartographie, en fait, de qu'est-ce que le vrai self ? Dont il dira qu'il ne peut jamais complètement le définir. Le vrai self gardera toujours une part de mystère. Et la distorsion du moi va advenir lorsque le vrai self n'a pas un bon terrain pour se développer. Et donc c'est le faux self qui va prendre le relais comme un protecteur, comme un gardien, comme une roue de secours pour que le vrai self puisse continuer à vivre. Et le faux self, lui, il va s'adapter. En fait, on ne peut pas penser vrai self, faux self, si on ne pose pas ensemble la question de l'environnement. La question de l'environnement, elle est cruciale pour Winnicott. Et c'est cette question qui va faire la différence avec les Kleiniens et les Anna Freudiens. Peut-être qu'il faut rappeler un tout petit
peu... Donc les disciples de Mélanie Klein et les disciples d'Anna Freud, qui est la fille de Freud.
Exactement. Juste pour rappeler un peu le paysage dans lequel Winnicott s'insère quand il devient théoricien de la psychanalyse. On est en 39-40. Freud est mort en 1939, je le rappelle. Donc, une fois que le père de la psychanalyse est mort, il y a quelque chose, évidemment, de ses héritiers et de la pensée de la psychanalyse qui est un peu bouillante. Chacun va tirer un fil, chercher une tendance particulière. Et donc, on est à Londres, à la Société de psychanalyse britannique. Melanie Klein trouve refuge à Londres pendant la guerre, où est, comme vous venez de le rappeler, installée également la fille de Freud, Anna Freud. Elles ont chacune une conception, on va dire, de la psychanalyse de l'enfance, avec une influence plus ou moins grande de l'extérieur. Mélanie Klein, elle va être très fermée sur le fantasme intérieur, et Anna Freud, beaucoup plus proche de l'environnement. Winnicott, il va faire partie du middle group, c'est-à-dire qu'il va être entre les deux tendances. Et à partir de là, il va développer sa théorie. Donc dans les années 40, c'est les premières années de la psychanalyse sans Freud. Et ça, c'est très important qu'on le comprenne. Et c'est aussi le moment de la liberté, où on peut commencer à penser des choses qui sont un peu éloignées des théories psychanalytiques habituelles. Et donc, pour revenir à notre question vrai self, faux self, en fait, c'est un triptyque. Il faut toujours rajouter et l'environnement. Et on a cette célèbre phrase de Winnicott, un bébé seul, ça n'existe pas. Un bébé, ça n'existe pas, qui est une phrase qui est très connue chez les psychanalystes. Cette phrase ne veut pas dire qu'un bébé, ça n'existe pas, mais que ça n'existe pas si on ne pense pas avec la mère. Donc si on ne pense pas avec l'environnement, la manière dont une mère peut être traversée par la dépression, la manière dont une mère peut être captive de la guerre, exactement comme voilà, qu'est-ce qui se passe sous les bombes en 1940 pour ces enfants qui vont être éloignés de Londres et séparés de leur mère.
Bon, on tourne autour du pot sur ce que c'est que le self, il faut qu'on le définisse. Donc on va écouter tout de suite une lettre qu'a envoyée Winnicott à sa traductrice qui ne parvient pas à traduire le mot de self.
Je me suis demandé si j'étais capable d'écrire quelque chose à propos du mot self. Mais aussitôt que je me suis mise à le faire, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, même dans mon propre esprit, à propos de ma propre acception du terme. J'ai constaté que j'ai écrit ce qui suit. Pour moi, le self, qui n'est pas le moi, est la personne qui est moi, qui n'est que moi, qui a une totalité basée sur l'opération du processus de maturation. En même temps, le self a des parties. Et en fait, il est constitué de ces parties. Ces parties s'agglutinent de l'intérieur vers l'extérieur au cours de l'opération du processus de maturation, aidé, comme il se doit, par l'environnement humain qui porte et maintient et favorise d'une manière vivante le processus. Le self se trouve naturellement placé dans le corps, mais il peut, dans certaines circonstances, devenir dissocié du corps ou le corps de lui. Le self se reconnaît essentiellement dans les yeux et l'expression du visage de la mère, ainsi que dans le miroir qui peut en venir à représenter le visage de la mère. C'est le self et la vie du self qui seul donnent du sens à l'action ou à la vie. Bien sûr, vous restez avec le même problème que celui que vous aviez au début. Comment traduire self sans utiliser le même mot que vous utiliseriez pour traduire ego ? Laissez-moi vous aider un peu plus. Je pense que l'usage du terme self est sur une plateforme différente que celle de l'usage du terme ego. La première plateforme concerne directement la vie et le fait de vivre. Dans la seconde, où l'on utilise le mot « le moi », celui qui parle ou qui écrit est plus détaché, moins impliqué, peut-être plus clair parce que capable d'exploiter tout ce qui relève d'une approche intellectuelle.
Quelques jours avant sa mort, nous sommes le 19 janvier 1971, Winnicott écrit à sa traductrice Janine Kalmanovitch ses incertitudes sur le terme de self. Elle-même lui a écrit en lui disant « voilà, comment traduire ce terme ? Est-ce que c'est l'ego ? Est-ce que c'est le moi ? Est-ce que c'est le soi ?» Bon, on voit bien que dans cette lettre, il l'aide pas du tout.
Non, il l'aide pas du tout et je crois qu'il est peut-être non pas heureux mais convaincu de la nécessité de laisser cette incertitude planer.
Voilà, faut garder l'idée que c'est un intraduisible.
C'est exactement un intraduisible parce que mon idée aussi c'est que dans cette pensée du self, il y a quelque chose de sacré. en fait. Quelque chose qui vient respecter la part sacrée, qui est certainement en chacun de nous. Et dans cette part sacrée, il n'y a pas que une inspiration métaphysique. Je pense qu'il y a au contraire quelque chose du mystère de l'alliance entre l'âme et le corps. Ce qui peut dire, c'est que dans ce self, c'est aussi le nouage entre psyché et soma qui doivent apprendre à se connaître, qui doivent apprendre à s'apprivoiser. Peut-être, dans un nouage qui est chez chacun d'entre nous absolument singulier. Et donc, pour Winnicott, c'est très important de se dire que ce self, c'est cette partie en nous, absolument irréductible, absolument unique, cachée, mais qui ne va pouvoir exister sans la médiation de l'autre, sans la médiation de la mère et de l'environnement. Ça, c'est la définition. Ensuite, on peut se dire, mais à quoi ça sert ? Le vrai self. Vers où il nous conduit, ce vrai self? Alors, ce vrai self, il doit nous conduire vers l'authenticité, vers le geste spontané, vers la version la plus, on pourrait dire, naturelle de nous, la plus authentique, parce qu'elle aura été accueillie par la mère, qui va accepter la spontanéité de nos gestes et qui va nous permettre, dans ce fameux holding, qui est un autre grand concept winnicottien...
Et qu'on ne traduit pas non plus.
Hein. C'est pour
c'est pas juste que vous parlez franglais.
Non, je ne parle pas franglais, je suis une winnicottienne et je respecte...
Voilà, donc voilà, il y a le self et il y a le holding.
Mais ce holding, en fait, c'est l'idée de l'intégration, de l'expérience unifiante où on va prendre dans nos bras, où on va donner le bain à un bébé. Il faut se rendre compte que le holding...
C'est quoi le fait de tenir?
Voilà, c'est de hold, to hold, tenir. Et donc, un bébé, si on le hold pas, en fait, bah, il tombe par terre. Winnicott, on l'a rappelé, mais c'est un pédiatre. Donc, il a vu pendant 40 ans la vulnérabilité extrême d'un petit bébé. Qu'est-ce que c'est un bébé si on le porte pas, si on le change pas, si on le nourrit pas? C'est la mort assurée. Et ce vrai self, c'est ce qui va émaner de la tendresse, de la fiabilité, de la continuité de l'environnement. Ce vrai self ne peut se développer que dans l'idée de la continuité, qui est une idée fondamentale de Winnicott. Mmh. Ça ne doit pas s'éteindre. Si ça s'éteint, c'est le faux self qui prendra le relais.
D'ailleurs, il y a des textes assez inquiétants, je le répète, de Winnicott, où il dit « on ne sait pas à quoi tient cette rupture, combien de temps elle peut durer pour un enfant, ça peut être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais tout à coup, la rupture a eu lieu, le geste n'a pas été répété, et tout à coup, voilà, il y a cette rupture. Est-ce que c'est aussi franc que ça? Est-ce que, bon voilà, Winnicott parle quand même d'un contexte qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que il faut quand même des contextes assez dramatiques pour qu'il y ait lieu cette rupture, ou est-ce qu'il s'agit de ne pas répondre tout de suite à une demande? Et ça y est, le self n'apparaît pas, le vrai self ne peut pas se constituer et c'est le faux self qui prend le dessus.
Non, non, pas d'alarmisme. Voilà. Tout va bien. Il faut se rappeler que Winnicott, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'occupe, il était responsable de l'observation des enfants qui étaient séparés brutalement de leur famille lors des bombardements en 1940. Donc, du jour au lendemain, on a dit aux mères, en gros, si vous êtes des bonnes mères, il faut accepter de vous séparer de vos enfants et les mettre dans des familles à la campagne pour les protéger. Donc, cette rupture de la continuité, elle a lieu dans des moments où la mère n'est plus là. Et il le dit, c'est un temps X qui va être ajouté un temps Y, qui va être ajouté un temps Z, et à partir de ce moment-là, c'est une très belle phrase qu'il a, il dit « l'imago de la mère se décolore ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la mère qui petit à petit va s'évanouir, et peut-être qu'on peut poursuivre cette pensée de Winnicott par des recherches qui lui sont contemporaines, qui sont celles de Spitz, qui est un psychiatre, un pédopsychiatre qui travaillait dans les mêmes années et les suivantes dans les années 50, et qui était dans les pouponnières des orphelins de l'après-guerre, dans ce qu'on appelle le syndrome de l'hospitalisme, et qui a vu justement tous ces bébés se mélancoliser lorsque la mère disparaissait. Mmh. Donc les ruptures de holding, les ruptures de continuité, c'est soit quand la mère disparaît pour de vrai, parce qu'on en est séparé physiquement, soit elle disparaît psychiquement, parce qu'elle va être prise par une dépression nerveuse, par la mélancolie, par une maladie, par un effondrement. Et ça, c'est un autre psychanalyste qui peut nous éclairer aussi, qui a travaillé après Winnicott, qui s'appelle Green, et qui travaille sur ce qu'on appelle la mère morte. Et donc, c'est comme si... C'est après Winnicott, hein, mais il va continuer, en fait, il va poursuivre en complexifiant certains aspects de la pensée de Winnicott, mais ça peut être très précieux aussi pour nos auditeurs de voir comment Green poursuit la pensée de Winnicott et de l'absentéisation possible de la mère qui peut être traversée. Et Winnicott ne cherche pas du tout à culpabiliser les mères ou les familles, il sait justement à quel point, et on l'a entendu dans le premier extrait, ça peut être très difficile d'être parent, mais nous sommes tous et toutes comme parents, parfois traversés par des naufrages qu'on n'a pas choisi de traverser ou dont on est l'objet involontairement. Et les bébés sont forcément impactés. Surtout que quand on parle vrai self et faux self, cela peut intervenir à toutes les étapes de la vie.
Alors là, vous avez insisté, Laurent Joseph, sur ce qui est dit dans le texte de processus de maturation qui est tout le temps fait en continuité et en lien avec ce qu'il appelle l'environnement humain. Il parlera aussi, Winnicott, d'environnement facilitateur, c'est-à-dire qu'il y a des gestes répétés, où il n'y a pas de rupture, où on répond aux besoins de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui s'adapte, c'est la mère qui va s'adapter aux besoins du bébé. Mais il y a une autre dimension dans le texte qui permet de comprendre la constitution de ce self qui n'est jamais tout seul et isolé comme le moi chez Freud. C'est cette idée de vie. Il dit ceci, Winnicott: c'est le self et la vie du self qui seul donne du sens à l'action ou à la vie. Alors, quelle est cette dimension vitale qu'a le self et que n'a peut-être pas le moi freudien ou peut-être d'autres idées de l'âme qu'on pourrait trouver dans la philosophie ou du sujet qui serait quelque chose de plus métaphysique?
C'est une question difficile, mais c'est une question très intéressante. Freud, il nous laisse héritier d'utopiques. C'est-à-dire qu'on va être dans des systèmes où les choses sont placées, les choses sont en conflit. Winnicott, il a abandonné, en abandonnant, pas complètement, mais en se décalant de l'héritage de Mélanie Klein, il a abandonné cette vision justement topologique, topographique de l'inconscient. Winnicott, ce qui l'intéresse, c'est le geste, c'est le mouvement, c'est l'authenticité de notre race. Et ce qu'il précise très souvent par rapport au faux self, c'est que dans le faux self, même si l'individu sera très adapté, sera conforme à ce qu'on attend de lui, il n'y aura jamais cette force créatrice. Ce qui intéresse Winnicott, c'est de voir comment, dans le vrai self, il peut y avoir autant le repos que la créativité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une trace complètement humaine, vitale, complètement singulière et presque sacrée de chaque sujet. Alors que quand on lit Freud, je ne pense pas qu'on trouve ce tel rapport à la création, à l'existence, à la force. Je vois pas ça chez Freud.
Chez Freud, on a quelque chose, un moi isolé, c'est ça pourtant. Faut quand même rappeler
non,
que...
Non, pas un moi isolé.
Voilà, il y a quand même l'environnement familial.
Pas du
on
tout.
On parle de roman familial à propos de Freud. On voit bien, en fait, que quand on est aussi en cure, c'est qu'est-ce qui s'est noué dans la famille, dans l'enfance. Pourquoi là, c'est différent? Pourquoi le self, il a quelque chose de plus que la pulsion chez Freud, par exemple? Pourquoi la dimension vitale du self, c'est mieux ou autre que la pulsion chez Freud?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, par rapport à Freud, non, le moi freudien, il n'est pas du tout isolé. Il y a des articles fantastiques sur l'identification, le surmoi, les identifications archaïques.
Le rapport à la foule.
Oui, non, ça, Freud isole pas du tout. En revanche, Winnicott, moi, j'ai l'impression que, paradoxalement, Winnicott, c'est un homme de paradoxe. Ce qui intéresse Winnicott, c'est qu'on puisse, grâce au self, être seul. Ce qui l'intéresse, Winnicott, c'est aussi le choix de la solitude. On commençait là-dessus tout à l'heure à discuter. À quoi sert un self? Un self, il sert à nous reposer, à trouver asile, à trouver un îlot à partir duquel on va pouvoir rêver, travailler, créer, peindre, danser. Le rêve de Winnicott, c'est qu'on soit tous autonomes. D'ailleurs, il y a un article très célèbre de Winnicott qui s'appelle « La capacité à être seul ». Ce que Winnicott nous souhaite, c'est une solitude choisie. C'est une forme d'autonomie. Je ne sais pas si c'est de l'autarcie, mais en tout cas, c'est le choix de la solitude. Et en fait, le paradigme qu'il nous donne de l'être humain, c'est qu'on va partir de la plus grande dépendance, mais on pourrait appeler ça d'un point de vue philosophique, de la plus grande aliénation. Et notre but, ça va être d'arriver à la plus grande autonomie possible et à une solitude possible. Et tout ce chemin, on va le devoir à l'autre, s'il a été suffisant, Mais s'il n'a pas représenté ce holding suffisant, ça va être le thérapeute, ça va être le clinicien qui va incarner ce nouveau passage de notre être pour qu'on puisse arriver à cette autonomie, à cet isolement possible.
Dans le travail psychanalytique, il est possible de voir des analyses qui se prolongent indéfiniment parce que le travail se fait à partir d'un faux self. Dans le cas d'un patient qui avait été longuement analysé avant de venir me voir, mon travail ne commença réellement que lorsque je lui fis clairement comprendre que je reconnaissais qu'il n'existait pas. Il me fit remarquer que durant des années, tout le travail accompli avec lui avait été inutile, parce qu'il avait été effectué en fonction de la réalité de son existence, alors qu'il n'avait existé que d'une façon artificielle. Lorsque je lui eus déclaré que je reconnaissais sa non-existence, il éprouva le sentiment que c'était la première fois qu'on communiquait avec lui. Ce qu'il voulait dire, c'est que son vrai self, qui avait été dissimulé depuis l'enfance, était maintenant entré en communication avec son analyste, de la seule manière qui ne fût pas dangereuse. On pourrait énoncer le principe que nous progressons davantage lorsque nous reconnaissons la non-existence du patient que lorsque nous travaillons longuement, de façon continue avec le patient, mais sur la base des mécanismes de défense du moi. Le faux self du patient peut collaborer indéfiniment avec l'analyste dans l'analyse des défenses, car il est, pour ainsi dire, du côté de l'analyste. On ne peut mettre un terme profitable à ce travail ingrat que lorsque l'analyste peut indiquer de façon spécifique l'absence de quelques caractéristiques essentielles comme « vous n'avez pas de bouche »,« vous n'avez pas encore commencé à exister »,« physiquement vous êtes un homme, mais votre expérience ne vous a rien appris sur la masculinité », etc. Ces admissions de faits importants, exprimées clairement au bon moment, ouvre la voie de la communication avec le vrai self.
Avec Philosophie, France Culture, Géraldine Mosna, Savoie.
Un extrait de ce fameux article que vous avez évoqué, Laurent Joseph, en début d'émission qui s'appelle « Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux self ». C'est un article qui date de 1960 et c'est vraiment dans cet article clé que Winnicott met en place cette distinction entre vrai self et faux self. Alors il faut quand même dire tout de suite que le self en tant que tel, Winnicott, voilà, ne théorise pas sur le self, on vient d'en parler, mais il ne fait pas d'article, de théorie là-dessus. Le self, c'est toujours pour en parler en termes de vrai self et notamment de faux self. Parfois, il parle de self cruel, d'autres fois de self de défense, d'autres fois de self protecteur. Et il pose ces questions au début de cet article de 1960, vraiment cruciales. Toutes les questions en fait, que j'ai envie de vous poser et auxquelles vous n'allez pas forcément répondre parce qu'on n'aura pas le temps, mais il demande ceci. Quelle est l'origine du faux self? Quelle est sa fonction? Pourquoi dans certains cas le faux self est-il exagéré ou accentué? Pourquoi dans d'autres ne se développe-t-il pas? Quels sont les équivalents du faux self chez les gens normaux? Et qu'est-ce que le vrai self? Voilà, en fait, il y a tout le programme qui est là. Commençons par là. Qu'est-ce que le faux self? Et à quoi sert-il?
Alors, le faux self, c'est un peu l'aide de camp du vrai self. M'est venue une image en préparant notre émission, c'est celle d'une vestale. Alors je rappelle juste ce qu'est une vestale, c'est une prêtresse dans la Rome antique qui est là pour protéger le feu sacré de Rome, qu'est la Vesta. Alors moi je fonctionne beaucoup avec des images dans ma tête et je me suis dit vrai self, faux self, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme image à partager pour avoir cette idée d'une institution qui va passer sa vie coûte que coûte à protéger ce feu sacré qu'est le vrai self, qu'est la trace de notre existence extrêmement singulière. Et donc j'ai eu cette idée de la vestale qui va passer sa vie à protéger un feu qui ne doit jamais s'éteindre. Bon. Alors, la vestale, là, il va lui arriver plein d'aventures si on continue notre métaphore. Mais en tout cas, c'était une image. Mmh. Une image pour se dire, le faux self, c'est celui qui va prendre le relais de l'environnement lorsque celui-ci n'est pas satisfaisant. Je pense que pour bien comprendre ce qu'est le faux self, il faut comprendre qu'il est comme une paroi, en fait. Il est comme une paroi, on peut dire presque comme un pneu autour du vrai self, avec une paroi intérieure qui va être celle de prendre soin du vrai self. Le faux self va faire comme un holding du vrai self. Mmh. Il va le protéger, il va le prendre dans ses bras en lui disant « t'inquiète pas, ça ira mieux plus tard, attendons un terrain plus favorable. Pour l'instant, laisse tomber, je prends le relais. » Donc ça, c'est la phase intérieure du faux self qui va faire ce holding du vrai self pour le protéger. Et il y a une phase extérieure, donc c'est l'extérieur de notre pneu, qui lui va s'exposer à la difficulté de l'environnement. Et là, il faut proposer deux routes. La première, justement, dans les routes, la première route, ça va être une route, on va dire, dogmatique, trop exigeante. C'est-à-dire, on va prendre des exemples très simples, l'enfant va grandir dans une ambiance, mettons un peu du ruban blanc de Haneke, c'est-à-dire très rigide, très formelle, où il faut se tenir très droit, où il faut faire sa leçon de piano, où il ne faut pas parler à table, enfin des choses très sévères, qui ne correspondent pas au vrai self de l'enfant qui est là, et donc le faux self va être en conformité avec l'environnement. Il va répondre à la demande, quitte à se sentir inutile, vide, à pas mener une vraie vie, mais en tout cas, il va répondre à la demande. Donc ça, c'est une des routes du faux self, c'est répondre à quelque chose qui est trop exigeant, trop conforme, trop rigide. Et la deuxième route du faux self, elle va davantage concerner un environnement carent, où personne ne va répondre à la demande, ou ça ne va pas se présenter. Et il le dit dans un autre texte qui s'appelle « La crainte de l'effondrement », que le pire supplice pour un petit enfant, c'est le supplice de Tantale. C'est-à-dire avoir le sentiment, ce supplice de Tantale, selon Winnicott, c'est le sentiment que les parents vont venir à la rencontre du vrai self, ils vont accueillir l'enfant et en fait, il se dérobe à chaque fois. Donc vous voyez, le faux self, il va avoir à faire face à soit quelque chose de trop exigeant, soit quelque chose de trop carent. Donc voilà pour notre paradigme vrai self, faux self. Il faut voir que ce faux self peut lui-même avoir des degrés. Mmh. Ce qui est une manière de continuer à vous répondre. Il va y avoir un faux self, on va dire absolument d'usage. On se dit bonjour, on peut faire semblant que c'est bon alors que l'assiette n'est pas très bonne.
C'est la question que j'allais vous poser, Laurent-Joseph. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas, en fait, il a cette question-là, quels sont les équivalents du faux self chez les gens normaux? Mais j'ai envie de dire, la manière dont vous le décrivez, on peut se dire, un peu comme chez Bergson, il y a un moi social, il y a un moi individuel.
Exactement.
On se dit aussi, on ne va pas se comporter de la manière en société, à son travail, chez soi,
dans
avec
une
sa famille.
Fête.
On
bien
s'adapte
sûr.
En fait, c'est des exigences d'adaptation.
Mais ça c'est pas grave. On peut dire que c'est les traces du surmoi chez Freud. Là, ça
c'est
va.
C'est même pas un faux self, finalement.
Non, on va dire que c'est pas un faux self au sens où il peut devenir délétère pour le sujet. Un faux self, ça va être, par exemple, certains enfants qui n'ont pas pu, dans leur environnement, aussi parce qu'ils ont été placés en foyer, ou parce qu'ils sont nés dans des familles qui vont être extrêmement rigides, ou, mettons, je sais pas, obsédés par le sport. C'est pas que de la rigidité, de la sévérité. Ou, au contraire, c'est intéressant de prendre l'inverse, des enfants qui vont grandir dans des familles extrêmement extraverties, voire parfois un peu hypomanes, c'est-à-dire trop faire la fête, trop sortir, trop parler aux inconnus, enfin voilà, des gens un petit peu déréglés dans leur manière de vivre. Et ces enfants-là vont en souffrir parce que ça ne correspond pas, en fait, à leur nature. Ils vont être gênés. Donc, ils vont se mettre, comme on dit, en faux self. Et ils vont suivre ce qu'on leur demande de faire. Mais ils pourront jamais avoir la spontanéité de ce qu'ils aimeraient faire. Il y a certains enfants qui, naturellement, sont très calmes, qui ont juste envie d'être posés, d'être tranquilles. Qui sont casaniers, qui n'ont pas envie de faire 32 activités, d'apprendre 45 langues avant 8 ans. Il y a des enfants qui sont très calmes. Et c'est un exemple parmi d'autres. Mais ce que je veux rappeler, c'est que quand on reçoit des enfants et des adolescents, du matin au soir, depuis des années, comme Winnicott le faisait, ou comme beaucoup de cliniciens nous le faisons, et il y a quelque chose, quand on reçoit un enfant, on va chercher où il est, qui il est, par rapport à ce qu'il fait, vous voyez, par rapport à ce qu'il va donner à la société, ses prix d'excellence, ou au contraire, ses petits méfaits, ses conseils de discipline. Il est où, en fait? Est-ce que c'est vraiment lui? Et lui, où est-ce qu'il a envie d'être? Qu'est-ce qu'il aimerait faire si on lui demandait un peu moins? Et en fait, c'est ça qui va intéresser dans la pratique clinique un jeu que Winnicott avait instauré, qui s'appelle le Squiggle Game, et qui consistait à faire un trait comme ça. Chacun, le patient et Winnicott, faisaient un trait sur une feuille blanche et chacun complétait ce qu'on a, ça s'appelle le jeu du gribouillis, mais on dit squiggle, encore un intraduisible. Et en fait, on voit que l'enfant, au fur et à mesure de la consultation, notamment dans un volume de Winnicott qui s'appelle « De la pédiatrie à la psychanalyse » qui est rempli de squiggles. Il y a toujours beaucoup de squiggles dans les livres de Winnicott. Et on voit très bien, moi je trouve ça extraordinaire de lire ça, parce que on voit un squiggle d'un patient et ensuite Winnicott qui dit ou qui écrit « Mais oui, en voyant ce squiggle, j'ai tout de suite compris que... » Et là, il m'est apparu après le quatrième squiggle que, en fait, Winnicott, c'est quelqu'un qui va réagir, qui va comprendre, qui va sans cesse suivre les traces qui vont se dévoiler au fur et à mesure de la consultation. Mais ce « au fur et à mesure de la consultation », il veut dire « au fur et à mesure que les défenses régressent, au fur et à mesure que l'enfant il va rencontrer un clinicien qui va être authentique avec lui, qui va être à l'heure, qui va sourire, qui va être dans l'authenticité d'une rencontre avec le patient. » Et dans ce climat-là, ça va restituer ces moments de holding qu'il n'a pas pu avoir dans l'environnement
ou avec la mère. Ce qui s'est passé dans l'enfance ou mal passé dans l'enfance.
Ou ce qui n'a pas bien pu se passer dans l'enfance parce qu'il y a eu...
En tout cas, revenir à cet état de dépendance où on a besoin de rejouer ce processus de maturation dont on parlait dans le premier texte.
Exactement.
On va écouter tout de suite un extrait d'un film que vous nous avez conseillé, Laurent Joseph. C'est Le Cercle des Poètes Disparus et qui va précisément dans le sens du texte sur le vrai self et le faux self.
Bienvenue à Welcome. Ici, c'est l'enfer absolu, sauf si tu es un génie comme Mix.
Il me flatte pour que je lui fasse ses devoirs de latin.
Et de lettres et de trigo. C'est ouvert.
Papa, t'es encore là?
Bonjour, monsieur Perry.
Ne vous dérangez pas, jeunes gens. Neil, je viens de parler à monsieur Nolan. Je crois que tu te charges de beaucoup trop d'activités extrascolaires. C'est pourquoi j'ai décidé que tu dois laisser tomber l'annuaire de l'école.
Mais je suis rédacteur en chef adjoint cette année.
Oui, c'est dommage, je sais.
Mais voyons, compte sur moi, je peux pas...
Monsieur, vous nous excusez un instant? Je t'interdis de me contredire en public, tu entends?
Mais je te contredisais pas.
Quand tu auras fini ta médecine, oui, là tu feras tout ce qui te chante et je n'interviendrai pas. Mais en attendant, tu feras ce que je te dis. C'est clair?
Très clair, pardon.
C'est très important pour ta mère, tu le sais.
Bien sûr. Oh, tu me connais, j'en fais toujours un peu trop.
Bon, au revoir, mon petit.
Et pourquoi ils te fichent pas la paix? Te laisse pas faire, envoie le paître. C'est facile à dire. Vous les envoyez paître, vos vieux. Toi, le futur avocat, et toi, le futur banquier. Écoute, ils sont tous aussi emmerdants que les tiens. Bon, alors dispensez-vous de me donner des conseils. Vous feriez pareil. Mon Dieu, ça va, ça va. Arrête, arrête. Qu'est-ce que tu vas faire?
J'ai pas le choix. Je laisse tomber l'annuaire.
Si tu savais comme je m'en fous de cet annuaire. Bon, latin à 8h chez moi?
Ouais,
8h, d'accord.
Donc, latin à 8h chez moi. Demain, on a l'illustration parfaite de cet élève, Neil, à qui son père oblige de faire certaines activités et pas d'autres. Donc là, on a clairement une illustration d'un faux self, tel qu'on l'entend dans le texte qu'on a diffusé juste avant. Un faux self qui a pris la place du vrai self. Alors, dans le film, ça finit très mal, puisque Neil se suicide. Mais dans le cas de Winnicott, il y a quand même une porte de sortie qui est celle de l'analyse. Alors, il le dit quand même, hein, c'est quand même un texte critique qu'on a entendu juste avant, puisqu'il dit, dans le travail psychanalytique, il est possible de voir des analyses qui se prolongent indéfiniment parce que le travail se fait à partir d'un faux self. Donc la question qui se pose, c'est comment on retrouve son vrai self dans ce cas-là?
Alors, pour revenir au cercle des poètes disparus, ce qu'on voit dans cet extrait, c'est le lieu d'un conflit, en fait. On voit que le héros, Neil, il est divisé entre la voix de ses amis qui le connaissent bien, qui le côtoient au quotidien, dans ce moment particulier qu'est l'adolescence, et ils lui disent « mais vas-y, vis ton rêve, arrête quoi, vas-y. »
Continue l'annuaire.
Voilà, au capitaine, mon capitaine, comme ils vont dire après, suis ce mouvement avec ce professeur qui va représenter justement l'appel au vrai self. Et de l'autre côté, il y a le discours, alors extrêmement surmoïque, là, si on veut être freudien, extrêmement fort, laisse tomber ça avec un petit coup de culpabilisation, c'est très important pour ta mère, où on voit très bien que ce héros, on va lui demander d'abandonner cela, d'abandonner le théâtre, et que finalement, on lui demande d'abandonner ce qui va lui permettre de respirer. Et en fait, dans cette idée de respiration du vrai self, on voit très bien que le risque, c'est l'extinction du sujet. s'il ne peut pas vivre ce qu'il souhaite à la manière ce qu'il fait vibrer, en fait. Et donc, quand on est en menace d'extinction, quand le feu peut s'éteindre, eh bien, une des solutions idéales, ça va être justement de rencontrer un analyste. Et on se demandait au début de l'émission si Winnicott pouvait parfois être un petit peu critique ou acerbe. Et en effet, il l'est vraiment par rapport à ces psychanalystes, justement, qui vont rester trop longtemps à collaborer avec le faux self, qui vont passer beaucoup de temps sur telle phobie ou telle interprétation. Et je veux dire, mais vous perdez votre temps, en fait. Vous êtes en train de collaborer avec un paravent. Vous êtes en train de collaborer avec, certes, un aide de camp qui est en train de sauver le vrai self de son extinction. Mais il n'est pas là, le sujet. C'est pas là qu'est le problème. Donc, il va falloir oser, et c'est ça qui est extrêmement important chez Winnicott, il va falloir travailler la négativité, chercher la négativité, chercher, ça c'est un verbe qu'il utilise souvent, là où ça s'est gelé. Il y a vraiment chez Winnicott un rapport à l'histoire, mais c'est normal, il passe sa vie à écouter des anamnèses, donc quand on écoute, on passe notre vie à écouter des anamnèses, on est extrêmement sensible à la chronologie de la vie de nos patients, surtout les enfants très petits. Alors les nourrissons, évidemment, on est très attentif aussi à la grossesse, mais sur un enfant de 2 ans, on va chercher l'histoire du bébé, l'histoire de la mère, l'histoire des parents, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été interrompu justement dans la continuité. Et donc, il va chercher ce qui n'a pas pu avoir lieu et pas seulement ce qui a eu lieu. Vous voyez, quand on part toujours de ce processus de maturation, il faut chercher où ont été les bons ingrédients, mais aussi qu'est-ce qui a manqué dans cette recette. Et c'est là où il ne va pas avoir peur, par exemple, on souriait ensemble, quand il dit l'absence de quelques caractéristiques essentielles comme « vous n'avez pas de bouche » ou « vous n'avez pas encore commencé à exister ». Parce que, en effet, c'est une manière de dire à un patient, ou un petit patient, depuis des années, tu te conformes à faire ceci, à faire cela, tu réponds à cette exigence. Par exemple, je pense à certains de mes patients qui ont un frère ou une sœur gravement handicapé.
C'est des cas d'ailleurs que Winnicott aborde régulièrement.
Bien sûr.
Où il dit, il y a un frère, une sœur handicapée, ou une mère dépressive, ou un père au chômage. Il rappelle à chaque fois ces éléments-là.
Et c'est très important pour qu'on comprenne bien la démarche de Winnicott, qu'on n'est pas dans quelque chose qui est dans le fantasmatique, qui n'est pas dans l'invisible. Par exemple, quand on reçoit des patients, moi j'en reçois beaucoup, qui ont perdu un de leurs 2 parents très très tôt dans leur vie, voire radicalement très tôt, au moment de l'accouchement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Comment on fait quand on perd un parent très tôt et qu'on n'a pas le temps de le penser complètement parce qu'on est trop petit, même quand on a 4-5 ans, je ne parle pas que 6-7 mois. Comment on fait dans ces cas-là? C'est très important d'avoir la radicalité qu'a Winnicott de dire « vous n'avez pas commencé à exister » ou « vous n'avez pas commencé à vivre comme femme » ou « comme homme » ou « tel organe », puisqu'on est dans le lien psyché-soma avec le vrai self, « ceci n'a pas encore pu pousser chez vous, la tresse, elle est nulle, quoi, elle n'a pas commencé. »
Mais à quoi on repère ça, Laurent Joseph? À quoi on repère le fait qu'on collabore avec un faux self depuis des années, pendant des années? Est-ce qu'on ne peut pas se tromper? Et puis une autre question, j'en rajoute une. Est-ce qu'un enfant, ça a un vrai self?
Ah oui, bien sûr. Un enfant, ça a un vrai self. Winnicott dit que c'est la part la plus sacrée. Et il y a un passage dans le texte précédent qu'on a écouté tout à l'heure qui parle du regard de la mère, en fait. Que le vrai self, il va s'exprimer dans le visage de la mère. Et je pense que la mère ou celle ou celui qui s'occupe d'un enfant, on voit très bien parfois dans le regard d'un enfant la présence de son existence de manière absolument...
Singulière,
indélébile.
Ce serait pas qu'une question de caractère,
non.
Mais une question quoi? De posture, de geste? On en revient finalement à la définition du self. Hein.
C'est pour ça qu'il n'arrive pas exactement à... Et c'est pour ça que moi j'aime bien, mais c'est mon style aussi peut-être, mais d'y ajouter quelque chose du mystère de la singularité. Et c'est pour ça que cette idée des empreintes digitales me plaisait aussi, parce que c'est quelque chose
vestale,
qui est...
Ou de la vestale. Nous permet de comprendre.
En fait, oui, je cherche des images pour comprendre ce self, mais comme nous tous, on cherche tous derrière Winnicott, parce que lui-même, il cherche, parce qu'il a croisé tellement de regards.
Alors comment
on
sait qu'on se trompe pas? Comment on sait qu'on parle à un faux self quand on est praticien et qu'on doit accéder au vrai self? Et est-ce que, d'ailleurs, on peut y accéder?
Alors, moi, je suis toujours très optimiste. Je pense bien sûr qu'on peut y arriver, sinon, c'est pour ça qu'on travaille. Mais surtout, je pense qu'on voit que le patient est en faux self parce que lui-même n'est pas content de son existence. Parce qu'il lui manque quelque chose. Et il le dit, et souvent c'est pour ça qu'il vient consulter. Alors, il peut créer des petits symptômes, des petites phobies. Il le dit, Winnicott, il va y avoir des choses... Là, on n'est pas dans le registre du très grave. Mais il n'y a que le vrai self qui peut apporter ce sentiment de créativité, de joie, de vitalité, qui nous permet de faire l'expérience de la vie. Et il y a une question que Winnicott pose, qui me marque beaucoup, et que d'ailleurs j'ai posée à certains de mes amis, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant? À quel moment on se sent vivant? À quel moment on se sent vraiment exister?
Et donc pas de manière générale.
Non.
On pourrait avoir des banalités comme l'amour.
Non, un vrai moment. Voilà
non. À quel moment tu te sens vivant?
Voilà. Quel moment tu te sens vibrer? Qu'est-ce qui fait que vraiment tu as l'impression d'étreindre l'existence maintenant, hic et nunc, et pas à un autre moment?
Mais alors l'écueil, est-ce que c'est pas aussi de se dire, dès qu'on est insatisfait, qu'on est déconnecté de son vrai self et de tomber dans des clichés de « je suis insatisfait, j'ai pas envie de faire ça ». On a aussi des moments distingués, une déprime, d'une insatisfaction, d'un problème qui est plus important.
Je pense que c'est très important de poser justement cette question et de souligner, parce que évidemment que ce travail de Winnicott, vrai self et faux self, il a été parfois un peu caricaturé, ou même parfois chez les psys, on peut entendre...
Ouais, ça pourrait devenir du développement personnel, part à la quête de ton vrai self.
Oui, ou à la va-vite, non, elle est en faux self. Donc, non. Je pense qu'il faut le garder comme une boussole et se dire que tout doit venir des mots toujours du patient, des enfants, des adolescents ou des petits, avec cette idée que lorsque le patient ou l'enfant nous dit qu'il se sent inutile, il y a ce sentiment d'inutilité, de vide, on peut appeler ça aussi, de se sentir un peu opératoire, de ne pas trouver le sens. On peut pas être en vrai self du matin au soir, c'est pas la question. Mmh. Et surtout, c'est important de le penser de manière complexe, ce vrai self. D'ailleurs, c'est pas que chanter, danser dans la rue en étant joyeux. C'est aussi, comme on le rappelait tout à l'heure, avoir cette chambre à soi, en fait, cette possibilité de la retraite, ce coin calme en nous-mêmes, depuis lequel on peut penser à distance, créer, imaginer ce qu'on va faire. Donc, le vrai self, c'est aussi la possibilité de se retirer. Et ça, c'est pas forcément les gens qui font beaucoup de bruit. Donc, c'est important de repérer si chez l'enfant qu'on reçoit, ou chez l'adulte qu'on reçoit, il y a toutes ces possibilités. Et il le dit aussi, à un autre endroit, mais je sais plus où, que la bonne santé mentale pour Winnicott, c'est aussi la capacité de penser l'autre, de se mettre à la place de l'autre, d'imaginer à sa place ce qu'il vit. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette idée d'avoir un peu une île et de voguer autour d'elle. Et dans un texte qui est très sympathique à lire, qui s'appelle Donald Winnicott par Donald Winnicott, il le dit au début, et on retrouve bien son caractère. En fait, il dit, Winnicott, moi je suis comme une île. Ceux qui veulent me rejoindre, bah, il va falloir donner un peu du sien, parce que c'est pas évident de me suivre. Je suis un peu à la vitesse où j'ai envie d'être dans mes textes et dans ma théorie. Je rends pas forcément des comptes. Mais voilà, ceux qui ont envie peuvent venir me rejoindre.
Et on peut quand même dire que partir en quête du vrai self, il s'appuie sur un certain nombre de patients, de patientes qu'il a eues, notamment dans Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux self. Il parle notamment de cette patiente âgée qui est venue le voir et qui lui a elle-même soufflé cette idée de faux self en lui disant « Voilà, j'ai l'impression d'avoir été à la recherche de mon vrai self toute ma vie et d'avoir été en faux self tout seul. » Il faut dire que c'est pas une quête qu'on peut faire seul, ça suppose vraiment de voir un psychanalyste, un psychologue ou un psychiatre, ou en tout cas un médecin.
Alors, c'est très intéressant justement ce que vous dites, puisqu'on revient à notre triptyque du départ, il y a vrai self, faux self et l'environnement, et le tiers qui va nous permettre justement de développer au maximum la richesse, le potentiel de notre être. Et Winnicott peut le dire ailleurs. Parfois, c'est à la faveur d'une amitié ou en lisant de la poésie, de manière assidue, de la littérature, qu'on va pouvoir justement développer ce que nous avons en nous, ce potentiel, cette fréquence très intime qui va être en nous. Et je pense qu'on est nombreux à pouvoir attester que parfois une amitié va être ce nouveau terreau qu'on n'a pas pu avoir dans notre famille, et que c'est dans ces amitiés, parfois adolescentes ou parfois plus tardives, que quelque chose de nous va pouvoir enfin vibrer, va pouvoir s'exprimer, parce qu'on va plus être dans le même terreau, terrain, et là il y a quelque chose qui va naître. Donc parfois, bien sûr, ça peut être le clinicien, mais ça peut être aussi l'ami, ça peut être la fréquentation de certains textes, ça peut être aussi un milieu professionnel favorable. Donc il y a toujours des possibilités de redémarrer avec Winnicott.
J'aimerais qu'on écoute un dernier texte, Laurent Joseph. C'est un texte qui n'a pas rien à voir avec le self, mais qui s'intitule « La crainte de l'effondrement ». Et dans ce texte, on voit, on comprend l'importance du self. C'est-à-dire que quand le self n'a pas encore été uni, il y a pu avoir un effondrement qui peut en fait générer une crainte. On va entendre tout de suite Winnicott en parler.
Je peux, à présent, exposer ce que je soutiens, qui est très simple. Je soutiens que la crainte clinique de l'effondrement est la crainte d'un effondrement qui a déjà été éprouvé. C'est la crainte de l'angoisse disséquante qui fut à l'origine responsable de l'organisation défensive que le patient affiche comme un syndrome pathologique. Pour le clinicien, cette idée ne s'avère pas forcément d'une utilité immédiate. Nous ne pouvons pas faire que nos patients se dépêchent. Cependant, nous pouvons les empêcher d'avancer par suite d'une authentique ignorance. Comprendre, si peu que ce soit, suffit pour trouver l'aide qui nous permet d'accompagner les besoins d'un patient. Dans mon expérience, il y a des moments où un patient a besoin qu'on lui dise que l'effondrement, dont la crainte détruit sa vie, a déjà eu lieu. C'est un fait qu'il porte lointainement caché dans l'inconscient. Dans ce contexte singulier, inconscient veut dire que le moi est incapable d'intégrer quelque chose, de l'enclore. Le moi est trop immature pour rassembler l'ensemble des phénomènes dans l'ère de l'omnipotence personnelle.
Laurent Joseph, vous avez une minute et quelques pour parler de la crainte de l'effondrement et de son rapport avec le self. Je vous laisse donc la parole.
Magnifique. Alors pour moi, ce texte, il est très important et il m'apparaît souvent comme un espèce d'art poétique en fait de Winnicott. Il nous dit tout là. Il nous dit voilà ce qu'on doit faire avec un patient. Et peut-être, puisque je n'ai qu'une minute, cette crainte de l'effondrement, on va l'entendre chez plusieurs patients. Il va y avoir beaucoup d'angoisse. Qu'il se passe quelque chose de catastrophique, qu'il se passe quelque chose de dramatique. Et vous l'avez précisé avant le début de l'extrait, ça se passe avant que le moi, avant que le self soit unifié. Donc, il faut se situer dans les tout premiers mois de la vie. Ce que Winnicott va chercher à nous expliquer, c'est que là où le patient cherche devant, où il est dans une quête de quelque chose de catastrophique, nous, comme cliniciens, on doit l'aider à faire une enquête, justement, une enquête dans le passé, sur les moments qui auraient pu avoir lieu, des moments d'effondrement qu'il n'a pas été capable de penser, qu'il n'a pas été capable de symboliser. Il les a vécus, mais il ne les a pas organisés dans son esprit et dans sa psyché. Pour se protéger, à ce moment-là, il y a des distorsions du moi qui ont eu lieu, contre justement ces craintes de vertige, ces craintes d'effondrement, de tomber dans l'infini.
Oui, il y a la crainte de la mort, la peur de la vie, de la non-existence.
Je pense qu'il faut lire ce texte pour se rendre compte de la puissance de Winnicott et de la puissance de penser, comment il cherche, comment il explore, qu'est-ce que c'est que cette psyché qui peut à un moment éclater, se fracasser. Et pourquoi je pense que c'est l'art poétique de Winnicott? Parce qu'il cherche radicalement la négativité. Il cherche à penser cette négativité et à nous inviter à explorer avec nos patients tous ces moments dramatiques sur lesquels le patient n'a pas encore les mots. If I could go back in time and give my younger self some advice, I'd tell myself try not to be so shy. And I would tell the little me, let's hang out with the dangerous guys.
Joseph.
Merci beaucoup Géraldine Mosna-Savoie.
De vous, on peut lire Nos silences, apprendre à les écouter aux éditions Autrement, La chute de l'intime, la mélancolisation du discours aux éditions Hermann et aussi sous votre direction et celle de Céline Masson, résumé des œuvres complètes de Freud aux éditions Hermann. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment les philosophes se succèdent-ils ? Les êtres humains ont un des besoins fondamentaux parmi d'autres qui consiste à se situer dans l'histoire. Qu'est-ce qu'une date ? Qu'est-ce qu'être entre 2025 et 2026 ? Qu'est-ce que se situer dans l'histoire ? C'est quelque chose d'absolument fondamental et qui semble nous mener aujourd'hui d'ailleurs dans la confusion la plus totale, puisqu'aujourd'hui peut-être ne savons-nous plus nous situer dans l'histoire. Nous savons que nous vivons un moment nouveau, singulier, marqué par des épreuves, des défis, peut-être des catastrophes, mais du point de vue de la culture, du point de vue de la pensée, du point de vue de la philosophie, savons-nous encore caractériser ce que nous vivons ? C'est un des défis du moment. Et c'est pour cela que l'histoire de l'art, l'histoire de la culture, l'histoire des sciences, l'histoire de la pensée n'ont rien de superficiel. Nous devons aussi comprendre qu'un moment n'est pas fait seulement d'événements qui nous tombent du dehors, mais aussi de pensées, de concepts, de problèmes que les humains construisent de l'intérieur. C'est pour cela que comprendre les mécanismes profonds de l'histoire de la pensée est extrêmement important. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, caractérise notre présent ? Comment nous situons-nous dans l'histoire ? Quelle date de la pensée aussi vivons-nous aujourd'hui, ce matin, ce midi, ce soir ? Eh bien, il y a dans l'histoire de la pensée elle-même plusieurs manières de le comprendre. Il y a une manière, disons, chronologique, successive, qui rend les dates incommunicables entre elles. Ainsi, par exemple, et il faut le reconnaître, faut-il dégager la spécificité du moment présent, ce que j'appelle pour ma part le moment du vivant, aussi du mortel d'ailleurs, qui romprait avec les moments précédents et qu'il faut penser dans son urgence. Mais à l'autre extrême, il y a une conception intemporelle de l'histoire de la philosophie. Et elle a quelque chose de vrai aussi. Bien sûr que les positions sur le vivant aujourd'hui reprennent celles, y compris des présocratiques, des philosophes de la Grèce ancienne. Nous avons besoin de Platon, d'Aristote pour nous situer, peut-être aussi de leurs prédécesseurs, peut-être aussi faut-il, comme pour ma part je l'assumerais, être aujourd'hui du côté d'Empédocle, qui pensait que ce qui régit l'univers et les êtres humains en particulier, ce sont deux principes très simples, l'amour et la haine. Freud lui-même disait qu'il était comme Empédocle, de ce dualisme de l'amour et de la haine qui régissent l'univers, la pensée et l'histoire. Entre ces deux extrêmes, il y a pourtant la nécessité d'en penser un troisième. Comme Malraux l'a pensé pour l'histoire de l'art, les philosophes se répondent en effet les uns aux autres d'une manière successive. Ils se succèdent d'une manière critique. Comment comprendre Picasso sans Cézanne ? Ça n'est pas une question secondaire. Car en fait, c'est la question principale, selon Malraux, que Picasso se pose comme Cézanne se l'est posé lui-même, comme Monet aussi par rapport à ses prédécesseurs. Et bien sûr, cela vaut pour tous les grands artistes. Proust voulait faire autre chose que Flaubert et Kafka a peut-être répondu à Proust sans le savoir même. Ainsi, faut-il aussi penser la succession critique des pensées les unes avec les autres. Et par exemple, le diagnostic du présent de Merleau-Ponty en 1945, la guerre a eu lieu. lieu. La guerre a eu lieu, c'est dire oui, je dois tenir compte de ma situation historique. Mais pour cela, il lui fallait, selon lui, rompre, peut-être moins violemment que Sartre d'ailleurs, avec des philosophes qui, en France, lui semblaient avoir méconnu cette urgence de l'histoire. Il fallait se construire aussi avec et contre Bergson, Braunschweig ou Alain. Ainsi faut-il nous replacer dans une succession historique de pensées, reconstruire un dialogue, comprendre comment notre moment présent n'est pas seulement dans une nouveauté impensable ou dans une intemporalité indéfinie, mais dans une succession critique qui est la vie même des humains dans l'histoire, qui définit l'histoire de l'humanité.
Merci beaucoup Frédéric et merci à toute l'équipe, Armance Bourquin, Anna Fulpin, Carla Michel, Corinne Amar, Axel Dubois et Nassim El Kabli à la réalisation, Nicolas Berger à la prise de son Mineta Jawara. Pour retrouver toutes les émissions d'Avec Philosophie, rendez-vous sur le site et sur l'application Radio France.